Que le nom du Seigneur soit béni, Seigneur. Qu'il est bon, c'est vrai, Seigneur, d'être dans ta présence. Quelle grâce, quel honneur tu nous fais, Seigneur, d'être parmi nous. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit, ce Saint-Esprit que tu as envoyé, ce Saint-Esprit pour lequel tu as dit qu'il serait pour nous un avantage. Merci, Seigneur, pour ce Saint-Esprit qui illumine nos vies, qui jour après jour nous conduit, nous dirige, nous enseigne, nous montre la voie. Oh Seigneur, c'est une grâce, un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Oh Seigneur, tu nous as bénis. Tu as fait de tes enfants des rois. Oui, nous sommes bénis d'être appelés enfants de Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour qui n'a nul autre pareil. Nous voulons encore ce soir, Seigneur, être attentifs à ta parole. Oh Seigneur, enseigne-nous. Fais-nous du bien. Parle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs. Nous croyons que tu as encore des choses à nous dire ce soir, car ta parole est bonne pour nos vies, Seigneur. Elle est encore vivante aujourd'hui. Elle agit encore aujourd'hui. Elle transforme encore les vies aujourd'hui. Seigneur, dirige-nous. Nous voulons te plaire, Seigneur, de plus en plus. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons persévérer jusqu'au bout, Seigneur. Car tu as promis qu'un jour nos yeux te verront. Oh Seigneur, merci de nous enseigner encore ce soir. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à toutes et tous, frères et sœurs. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Ce soir, je voudrais partager avec vous un message dans la continuité, de, pour ceux qui étaient là, du message de dimanche sur le thème de la sanctification. Donc, on va continuer sur ce thème-là et on va l'aborder d'une autre façon. Parce que c'est vrai que malgré les temps que nous vivons, qui sont les temps de la fin, malgré la croissance de l'injustice, de l'iniquité, de la corruption dans le monde, je crois que la sanctification personnelle est toujours possible. Et je crois que Dieu nous appelle à cette sanctification. Il est possible en 2026 de vivre dans la sainteté, mes frères, mes sœurs. Il est possible de vaincre la tentation. Il est possible de vivre pour Dieu. Il est possible de mener une vie qui plaise à Dieu. Il est possible de mener cette vie, y compris dans une génération où le péché est devenu monnaie courante. Et la question qui se pose à nous ce soir, c'est comment vaincre ces tentations ? Comment vaincre les tentations qui se présentent à nous ? Comment rejeter les tentations que le diable vient présenter sur notre chemin ? Et comment rester fidèle à Dieu ? Et nous allons, pour commencer, lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Matthieu 6, versets 9 à 13. Et donc, je lis dans la version seconde, 1910. Et Jésus dit : Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Et nous retiendrons particulièrement cette parole. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, que l'on traduit aussi dans la version Semeur par garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Lorsque Jésus enseignait cette prière à ses disciples, il leur enseignait notamment, on vient de le lire, à demander à Dieu comment faire, comment avoir la force de résister à la tentation, comment vaincre les ruses du mal. Et l'une des choses qui nous permettent de vaincre cette tentation, de rester vainqueur face à cette tentation, c'est la connaissance. Et Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est donc que beaucoup de personnes veulent vivre dans la sainteté, mais il y a un problème, c'est qu'elles ne savent pas. Elles n'y arrivent pas parce qu'elles ne savent pas. Elles ne connaissent pas les principes de Dieu qui permettraient de résister à cette tentation. Et ce soir, je voudrais qu'on voit ensemble 10 principes spirituels pour nous aider justement à vaincre la tentation, à tenir bon et à rester dans une démarche de sanctification. Le premier principe, c'est d'avoir une intimité avec Dieu fondée sur l'amour. Une intimité avec Dieu fondée sur l'amour. Et nous allons lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, et versets 38 et 39. Romains 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut savoir une chose. C'est important de savoir qu'on obéit facilement à celui qu'on aime. On obéit facilement à celui qu'on aime sincèrement. On obéit très facilement à celui que l'on aime de tout notre cœur. Et on se sanctifie facilement pour lui. Ce n'est pas difficile de se sanctifier dès lors que nous sommes très amoureux de notre Seigneur Jésus. Et si notre sanctification est basée uniquement sur la peur, alors c'est complètement différent. Ce serait une sanctification qui serait limitée. Ce serait une sanctification qui serait fragile. La vraie sanctification, celle qui est fondée sur l'amour, elle est profonde, elle est durable. Et j'ai envie de dire même qu'elle est indestructible. Celle qui est basée sur un véritable amour pour Dieu, elle est indestructible. Lorsqu'un homme dit « Je ne pêche pas parce que je refuse de blesser le cœur de mon Père. Je ne pêche pas parce que je refuse de blesser le cœur de mon Seigneur que j'aime. » Il possède une motivation beaucoup plus profonde que l'homme qui dit « Je ne pêche pas parce que j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. Je ne pêche pas parce que j'ai peur de ce que Dieu pourrait faire contre moi. Je ne pêche pas parce que j'ai peur de la malédiction de Dieu. Je ne pêche pas parce que j'ai peur de perdre mon onction, mon ministère. J'ai peur de subir une malédiction. » C'est complètement différent. Si tu ne pêches pas juste parce que tu as peur des conséquences, il arrivera un jour où tu te diras que dans la situation où tu es, il n'y aura pas de conséquences. Et alors, à ce moment-là, tu tomberas. Mais lorsque tu aimes véritablement Dieu, de tout ton cœur, même lorsque tu es seul, même lorsque personne ne te voit, tu peux dire « Non, je ne ferai pas cela, car si je fais cela, je vais blesser mon Seigneur. Et je ne ferai pas cela parce que j'aime mon Dieu. » On peut prendre l'exemple d'un mariage, un homme ou une femme dans un mariage, celui ou celle qui est fidèle à son mari ou à sa femme parce qu'il a peur des conséquences que son adultère pourrait avoir. Avec le temps, il arrivera un moment, un jour, où il se dira que les conséquences sont moins importantes ou qu'elles ne seront pas très graves. Et à ce moment-là, il finira par chuter. Mais celui ou celle qui est fidèle à son mari ou à sa femme par amour, alors là, il possède une autre motivation, une toute autre motivation. Et la plupart des hommes et des femmes qui veulent vivre dans la sainteté sans aimer Dieu profondément, en fait, ils se retrouvent finalement dans le péché parce qu'il leur manque le plus important, c'est-à-dire la puissance de l'amour. Connaissez ce verset par cœur, 1 Corinthiens 13, 13, où Paul nous dit « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » C'est l'amour. Imagine que tu commettes un péché alors que tu es tout seul, personne ne te voit, personne ne le sait, et personne ne le saura jamais, personne ne le découvrira jamais. Et suite à ce péché que tu as commis, tout est intact. Tu es exactement aux yeux des hommes dans la même situation, le même comportement qu'avant de commettre le péché. Tes finances sont identiques, ta santé est identique, tout est identique, ton témoignage est intact, tout est parfait, tout est comme avant. Même si tu es dans cette situation-là, dis-toi que ton cœur et ta conscience t'accuseront. Ils viendront t'accuser. Et ils ne te laisseront pas tranquille. Et cela reviendra parce que tu sais que tu as blessé le cœur de ton Père. Parce que tu sais que tu as blessé ton Père. Tu sais que tu as fait de la peine au Saint-Esprit. Ton cœur te le reprochera, ta conscience te le reprochera. Même si aux yeux des hommes, personne n'a rien vu et personne ne saura jamais rien. Voilà pourquoi, si tu veux vaincre la tentation, prie pour que le Seigneur remplisse ton cœur d'un grand amour pour lui. Romains 5, 5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Prie que le Saint-Esprit remplisse ton cœur d'un amour profond pour Dieu, d'un véritable amour pour Dieu, afin que même lorsque tu es seul, même lorsque personne ne te regarde, tu résistes, tu dis non au péché. Voilà le premier principe, frères et sœurs, avoir une intimité avec Dieu fondée sur l'amour. Deuxième principe, c'est un principe particulier, c'est le principe de chasser les démons qui veulent maintenir dans ta vie un cycle de chute, un cycle de péché. Il faut discerner que dans certaines situations, il peut exister une dimension spirituelle derrière des tentations répétitives. Quand Jésus a expliqué à ses disciples qu'il devait être mis à mort et qu'il devait ressusciter, Pierre a dit à Jésus, « Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Ça aurait pu paraître une parole charnelle. Mais Jésus a discerné et Jésus a répondu à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Pourquoi ? parce que Jésus avait discerné derrière cette parole de Pierre une influence qui ne venait pas simplement de Pierre. Il a discerné une influence négative, une influence maléfique derrière cette parole de Pierre. L'homme peut être tenté par sa chair, et c'est souvent le cas, mais il existe également une dimension spirituelle qui fait que le diable cherche à pousser l'homme vers le mal. C'est bien connu. La Bible nous le dit à plusieurs reprises. Et il y a des personnes qui vivent ainsi dans un cycle permanent de chute et de relèvement, chute et relèvement, chute et relèvement, et ainsi de suite. Et chaque fois qu'elles se retrouvent dans telle situation, elles tombent. Chaque fois qu'elles ont de l'argent, elles tombent. Chaque fois qu'elles sont avec telle personne, tel groupe de personnes, elles chutent. Chaque fois qu'elles sont dans telle circonstance, elles tombent. Cela peut venir de la chair, encore une fois, oui, bien sûr. Mais il faut discerner qu'il peut y avoir aussi, derrière ce cycle de chute et de péché, une puissance spirituelle qui cherche à maintenir la personne dans ce cycle. Bien-aimé, lorsque tu es chrétien, sache que tu as reçu une autorité au nom de Jésus-Christ. Marc, chapitre 16, verset 17, nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. » Croyez-vous que Jésus aurait prononcé ces paroles en vain si cela n'était pas une réalité? Mais non, frères et sœurs, c'est une réalité. Jésus nous a donné ce pouvoir pour ceux qui auront cru en son nom. Ils chasseront les démons. Lorsque tu discernes une pression spirituelle qui cherche à te tirer, à t'entraîner dans le péché, il ne faut pas paniquer. Il ne faut surtout pas paniquer. Mais au contraire, sûr de toi, tu prends autorité au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire toi aussi, comme Jésus a dit à Pierre, tu peux dire toi aussi, arrière de moi, Satan, je ne commettrai pas ce péché. Je ne chuterai pas. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis un enfant de Dieu. Tout ce que dit la parole de Dieu, tu peux le prendre à ton compte. Et tu peux le proclamer toi-même. Jésus-Christ dans le désert, vous le savez, a été tenté par le diable. Et comment l'a-t-il repoussé? Il l'a repoussé par la parole de Dieu. Voilà ce qu'a fait Jésus. Bien-aimé, celui qui est en toi est plus grand que celui qui veut te tenter. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il est en nous. Nous l'avons encore chanté ce soir. Il est parmi nous. Il est en nous par son Saint-Esprit, frères et sœurs. Il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Sachez-le et proclamez-le. Si vous discernez une influence maléfique autour de vous, prononcez, frères et sœurs, une parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth et vous serez délivrés. Troisièmement, c'est s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. S'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et nous allons faire trois lectures dans l'Épître aux Romains au chapitre 6. Romains chapitre 6, tout d'abord au verset 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Un peu plus loin au verset 7. Romains chapitre 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Et un peu plus loin, versets 11 et 12, Romains 6, versets 11 et 12. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Bien-aimés, en Jésus-Christ, nous sommes morts au péché. Et nous sommes ressuscités pour une nouvelle vie. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes morts au péché et nous sommes ressuscités pour une nouvelle vie. Il faut comprendre ici quelque chose d'important. C'est que le péché au singulier, on parle du péché, le péché au singulier, produit les péchés au pluriel. Le péché produit les péchés. Le péché est comme un arbre et ses fruits, ce sont les péchés. La nature pécheresse produit des actes de péché. Et cette nature déchue, nous l'avons chacune et chacun de nous hérité d'Adam. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et cette nature déchue nous pousse toutes et tous naturellement vers le mal. Elle nous pousse littéralement vers le mal. Mais Jésus-Christ à la croix a crucifié cette vieille nature. Jésus à la croix a vaincu le péché. Il a vaincu ce vieil homme. Et lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu dois te considérer comme mort au péché et ressuscité avec Christ. Pour une vie nouvelle, c'est ce que dit la parole de Dieu. Je suis mort à la croix et je suis ressuscité avec mon Seigneur. Prenons l'exemple de la chenille. La chenille entre dans le cocon. Et après un temps caché de transformation, la chenille va se transformer en papillon. Quand elle va sortir du cocon, elle ne sera plus une chenille, mais elle sera un papillon. Et lorsque tu regardes le papillon, une fois que le papillon est devenu papillon, que tu l'observes, tu as du mal à imaginer qu'avant, il était une chenille. Même si tu l'observes bien, tu vas avoir du mal à trouver des détails qui te font dire qu'avant, il était une chenille. Et de la même manière, nous aussi, nous étions comme des chenilles spirituelles. Et d'ailleurs, on pourrait prendre cette image que, comme la chenille, on rampait. On était dominé par notre nature pécheresse. Et nous sommes entrés, nous aussi, frères et sœurs, dans un cocon qui s'appelle la croix. Notre cocon s'est appelé la croix. Notre cocon s'est appelé la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous pouvons prendre aussi cette image, comme la chenille qui s'est transformée en papillon, nous pouvons prendre l'image de l'envol que nous avons pris avec Jésus-Christ pour nous envoler vers une vie nouvelle. Alors lorsque tu es tenté, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es et dis, je suis mort au péché. Je suis mort au péché et je suis ressuscité avec Christ.
Amen.
Et ce n'est plus l'ancien homme ou l'ancienne femme qui doit dominer ma vie, mais c'est Christ qui vit en moi. Car je suis mort au péché et je suis ressuscité en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas mon vieil homme qui domine ma vie. Ce n'est pas mon vieil homme qui domine mes choix, mais c'est Christ qui vit en moi.
Amen.
Le quatrième principe et le troisième micro. Merci. Le quatrième principe qui est naître de nouveau. Naître de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3, nous rappelle les paroles de Jésus à Nicodème. Jean chapitre 3, verset 3. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, il est impossible d'avoir une nouvelle nature sans nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. La Bible dit que ceux qui ont reçu la lumière, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ont aussi reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes veulent vaincre la tentation, mais sans se poser cette question qui est cruciale. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Car tu ne peux pas vivre la vie d'un enfant de Dieu si tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Tu ne peux pas expérimenter la victoire en Jésus-Christ si tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Et tu peux vouloir abandonner tes péchés, tu peux vouloir abandonner l'ivrognerie, tu peux vouloir abandonner l'impudicité, la drogue, tout ce que tu veux, mais la priorité, avant d'abandonner tout cela, c'est de recevoir Jésus-Christ. La priorité, c'est recevoir Jésus-Christ. Et après, lorsque tu auras reçu Jésus-Christ, Jésus te donnera la force de combattre tout cela et d'abandonner tout cela. Mais d'abord, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et après, tu remporteras des victoires. Ensuite, il te donnera une nouvelle nature. Et ensuite, il t'enseignera, il te montrera la capacité de vivre différemment. Pour reprendre l'exemple de la chenille et du papillon, il est impossible qu'une chenille devienne un papillon sans transformation. On est d'accord? Il faut bien passer par l'étape de la transformation. La chenille ne se réveille pas un matin avec des ailes qui vont pousser. La chenille est passée par la phase de la transformation. Mais de même, il est impossible qu'un pécheur puisse vivre une vie durablement dans la sainteté sans passer par Jésus-Christ. Il faut passer par Jésus-Christ. Tu es une chenille, tu passes par Jésus-Christ, tu deviens un papillon. Symboliquement, c'est ça. Amen. Il faut la nouvelle naissance. Il faut la repentance. Il faut la conversion. Il faut ce miracle-là. Tu peux avoir la volonté de dire non au péché, mais sans Christ, ça ne suffira pas. Tu manqueras de force, tu manqueras d'endurance pour tenir. Et voilà pourquoi certains, quand vous discutez avec eux, vous les sentez découragés et ils vous disent « Oh non, c'est pas pour moi. Moi, tu sais, je suis perdu. Je suis destiné à aller en enfer. Tu sais, pour moi, c'est fini. » Vous pouvez rencontrer des gens qui sont dans cette situation ou qui voient les choses comme ça. Non, non, non. Pour ma part, je crois de tout mon cœur que Dieu n'a créé aucun homme dans le but de l'envoyer en enfer. Je ne crois pas qu'il existe un homme sur cette terre qui est prédestiné à aller en enfer. Au contraire, je crois que Dieu veut sauver tous les hommes. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Amen. Et la première étape, j'y reviens, c'est recevoir Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ. Et ensuite, il te donnera la force de dire non au péché. Cinquièmement, il faut vouloir vivre dans la sainteté et le décider. Cinquième principe, il faut vouloir vivre dans la sainteté et le décider. Il faut le vouloir et il faut le décider. Personne ne le fera à ta place. Même Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu ne peut pas te forcer à vivre une vie que tu refuses. Dieu n'a jamais fait cela. Vous pouvez lire la Bible, on ne trouverait pas d'exemple où Dieu force un homme durablement à vivre une vie qu'il ne voulait pas vivre. Il y a toujours de la part de Dieu et la part de Dieu et la part de l'homme. Chacun fait sa part. Dieu te donne la force, mais c'est à toi d'utiliser la force. Dieu te donne sa grâce, mais c'est à toi de lui obéir. Chacun fait sa part. Dieu fait toujours sa part. Est-ce que nous faisons toujours notre part? Non, pas toujours. C'est pourquoi il faut parfois poser des questions très simples. Jésus posait ce genre de questions, souvent dans les évangiles. Veux-tu guérir? Veux-tu être pur? Veux-tu vaincre cette tentation? Veux-tu réellement abandonner tel péché? Jésus posait ces questions-là. Est-ce que tu veux? Parfois, ça pourrait être déroutant, parce qu'on se dit, bien sûr que l'aveugle voudra voir, mais Dieu posait cette question. Est-ce que tu veux voir? Et parfois, il y a des personnes qui viennent vers nous, et qui souvent nous disent, prie pour moi, intercède pour moi. Bien sûr, on prie, on intercède, mais au fond d'elles-mêmes, le problème, c'est que ces personnes-là ne veulent pas toujours abandonner le péché. Elles ne veulent pas toujours abandonner ou quitter ce péché qui les enveloppe si facilement. Et pourtant, elles demandent. Elles veulent des prières, elles veulent des intercessions, mais au fond d'elles, elles ne veulent pas vraiment quitter ce qui pose problème dans leur vie. Peut-être que si on prie pour cette personne, même si on lui impose les mains, même si on jeûne pour elle 40 jours, si cette personne ne veut pas du fond de son cœur, si elle n'a pas cette volonté de quitter un péché, d'abandonner une situation, si elle n'a pas pris la décision, si elle refuse de collaborer avec le Saint-Esprit, vous pourrez prier, vous pourrez lui imposer les mains, vous pourrez jeûner. Cette personne-là reviendra toujours au même endroit. À un moment donné, elle reprendra toujours les choses au même endroit. Je disais tout à l'heure, Dieu ne fait pas les choses à notre place. Dieu ne veut pas réparer une relation adultère à ta place. C'est à toi de le faire. C'est à toi d'aller vers cet homme, vers cette femme, et tu lui dis, c'est fini. Ce n'est pas Dieu qui va réparer une erreur que tu as faite. C'est à toi d'aller demander pardon. C'est à toi de réparer les choses. Dieu ne va pas restituer des choses que tu as volées. C'est à toi de le faire. Comprenez? Dieu ne brise pas une relation impudique à notre place. Il ne le fait pas. C'est à nous de le faire. C'est notre volonté qui doit être engagée. Et Dieu, la parole de Dieu le dit aussi, Dieu place devant nous la mort et la vie. Et il nous conseille de choisir la vie. Mais il le place quand même devant nous. Mais c'est à nous de choisir. Il faut le vouloir. Il faut le décider. Et Dieu ne vit pas notre vie à notre place. Dieu ne vit pas ta vie à ta place. Dieu nous a donné un libre arbitre. Il nous a donné la possibilité de choisir. Il faut vouloir et il faut décider. Le sixième principe sera considérer le péché comme de la boue. Vous connaissez cette expression, considérer le péché comme de la boue. Philippiens chapitre 3, verset 8. Philippiens chapitre 3, verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Chaque fois que tu es tenté, mets la tentation dans la balance avec Jésus-Christ. Et tu verras qu'elle ne pèse pas lourd. On te propose de l'argent pour abandonner Dieu. Mets cet argent dans la balance avec Jésus-Christ. On te propose un plaisir de quelques minutes. Mets cela dans la balance avec Jésus-Christ. On te propose la gloire, la célébrité, un travail, une situation, tout ce que tu veux. Mets-le dans la balance avec Jésus-Christ. Et fais cela avec toute chose qui dans ta vie se présente devant toi quand tu dois faire un choix. Et si cette chose doit t'éloigner de Dieu, si cette chose doit t'éloigner de Jésus, alors considère-la comme de la boue. Comme de la boue. Comment peut-on abandonner Dieu pour quelques minutes de plaisir? Comment peut-on abandonner Dieu pour une somme d'argent, même pour 10 000 euros, 100 000 euros? Comment peut-on abandonner Dieu pour une relation? Ou pour toute autre chose d'ailleurs? Comment peut-on faire ça? Dans le verset qu'on a lu, le secret de Paul, c'est qu'il avait découvert, il a découvert quelque chose de supérieur. Quelque chose de supérieur à tout le reste. Et lorsqu'un homme découvre, pour reprendre l'expression, l'excellence de la connaissance de Christ, certaines choses qu'il désirait auparavant, il les regarde comme de la boue. Ces choses-là perdent la valeur à ses yeux. Ces choses-là ont perdu la valeur. Voilà pourquoi nous devons aimer Jésus-Christ au-dessus de tout. Je sais que parfois, ça peut être difficile à imaginer pour certains, mais même au-dessus de ton mari, au-dessus de ta femme, au-dessus de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs, de tout ce que tu possèdes, Jésus-Christ est au-dessus. Tu dois aimer Jésus-Christ au-dessus de tout cela. Jésus-Christ en premier. Et lorsque Christ est le premier dans ta vie, tu peux dire non à tout ce qui vient après lui. Tout ce qui vient après lui, tu peux dire non. Et la haine du péché et de la haine du péché naît alors l'excellence de la connaissance de Christ. Le septième conseil, le septième principe, c'est justement garder ses principes. Garder ses principes en tout temps. Et la Bible nous raconte, dans le premier livre des Rois, au chapitre 22, l'histoire de Josaphat. Josaphat, c'était le roi de Juda, et Akab, qui était roi d'Israël. Et ces deux rois, qui étaient de deux royaumes différents, ces deux rois avaient ensemble un plan commun pour attaquer une ville qui s'appelait Ramoth en Galade. Ils avaient ce plan. Et avant de mener cette guerre, avant de mettre ce plan en pratique sur le terrain, ils ont d'abord décidé de solliciter les prophètes du pays. Et donc, ils ont demandé l'avis aux prophètes du pays. Est-ce qu'il fallait ou pas mener ce plan d'attaque? Et ils ont donc réuni 400 prophètes. 400 prophètes qui ont répondu. On va voir la réponse. C'est dans 1 Roi, chapitre 22, verset 6. 1 Roi, chapitre 22, verset 6. On va lire la deuxième partie du verset. Où il est dit, c'est la réponse des prophètes, « Monte, monte, ça veut dire vas-y. Et le Seigneur la livrera, il parle de la ville, le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Donc, les prophètes, les 400 prophètes conseillaient d'aller, aller. Et au verset suivant, au verset 7, « Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Malgré l'avis de 400, on va demander l'avis d'un 401e. Ce 401e, c'est Michée. C'est le prophète Michée. Donc on fait venir le prophète Michée. Et Michée va prévenir, on va lire le verset 14, 1 Roi 22, verset 14. Michée prévient, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc il annonce la couleur. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Sous-entendu, peut-être qu'il ne dira pas quelque chose qui vous convient, peut-être qu'il ne dira pas quelque chose qui vous fait plaisir. Mais je le dirai, même si avant moi il y a eu 400 prophètes qui ont dit une chose, si je dois dire une chose différente au nom du Seigneur, je le ferai. Et c'est ce que fera Michée. Donc lui, il donnera plutôt un avis contraire et dira qu'il ne faut pas attaquer. Et pour cela, pour avoir dit la vérité, il sera frappé et il sera humilié. Mais il l'a fait parce qu'il croyait dans la parole de Dieu. Et Dieu lui avait parlé. Et Dieu lui avait dit que les 400 prophètes en question étaient animés, ils étaient conduits par un esprit de mensonge. Michée a cru la parole de Dieu et il a dit la vérité. Il n'a pas changé son message pour faire plaisir aux hommes, même si ça lui a coûté. Donc, nous aussi, nous pouvons vaincre la tentation. Et nous pouvons être capables de rester fidèles à Dieu, malgré les circonstances, même si autour de nous c'est difficile. Même si tout le monde tombe autour de nous, nous pouvons rester debout. Même si nos familles décide de rejeter Dieu, nous pouvons rester debout. Même si nous vivons dans un contexte où c'est difficile, dans un environnement professionnel compliqué, nous pouvons rester debout. Nous pouvons rester fidèles à Dieu. Il y a des exemples bibliques qui montrent cela. Daniel vivait dans un environnement idolâtre, mais il est resté fidèle à Dieu. Il a refusé de se souiller. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de s'agenouiller devant la statue. On les a jetés dans la fournaise, mais Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Et de la même façon, ta sanctification ne doit pas dépendre de la sanctification des autres. Ton choix de vivre dans la sainteté ne doit pas dépendre des choix des autres. Tu ne dois pas craindre Dieu uniquement parce que les autres craignent Dieu. Tu ne dois pas te sanctifier personnellement parce que les autres se sanctifient et décident que même si tu dois rester tout seul, tu resteras avec Jésus. Tu ne seras jamais vraiment tout seul. Même si les autres ont abandonné Jésus, toi, tu restes fidèle, mais tu es avec Jésus. Ne dilue pas tes principes à cause de ce monde. Ne dilue pas tes principes à cause de la mode, à cause de la modernisation, à cause de toutes ces choses qui nous entourent, le matérialisme, notre environnement. Mais au contraire, reste près de la croix. Reste près de Jésus jusqu'à la fin. Le huitième principe, il faut s'occuper. il faut s'occuper. Alors ça peut sembler un principe moins spirituel que les autres, mais il faut s'occuper. L'oisiveté est une source de péché. L'oisiveté est une source de péché. Il faut s'occuper. La Bible nous donne l'exemple de David, le roi David, qui est tombé avec Bathsheba. Pourquoi ? Alors que les hommes étaient partis à la guerre, lui, il a décidé de rester à Jérusalem. Il reste à Jérusalem. Et il n'était donc pas là où il aurait dû être. Il aurait dû être à la guerre avec ses hommes. Mais il a décidé de rester à Jérusalem. Et donc, il était disponible pour la tentation. Il était disponible pour la mauvaise sollicitation. Et un soir, il sort, il se promène, il regarde, il voit Bathsheba et il tombe. Beaucoup de personnes tombent dans le péché parce qu'elles n'ont rien à faire, parce qu'elles s'ennuient, parce qu'elles tournent en rond. Et alors, on commence à s'ennuyer, on commence à parler, on commence à parler des autres, on commence à critiquer, on commence à regarder à droite, à gauche, on commence à avoir des pensées impures. Tout ça parce qu'on ne savait pas quoi faire, tout ça parce qu'on tournait en rond, tout ça parce qu'on ne s'était pas occupé. Et à l'inverse, les hommes qui sont réellement occupés, les hommes qui ont du travail, les hommes qui se consacrent à des choses utiles, des choses importantes, ont moins de temps à consacrer au mal. Quand on est concentré sur des choses utiles, quand on est concentré sur des choses sérieuses, on a moins de temps à consacrer au mal. Occupe-toi positivement, il y a plein de choses à faire. Tu peux travailler, tu peux étudier, tu peux prier, tu peux passer du temps dans la présence du Seigneur, tu peux utiliser ton temps. Tu peux occuper ton intelligence avec plein de choses sérieuses et utiles. Le travail, les études, les responsabilités, tout ça, ça peut être des instruments justement au service de l'activité, au service de la sanctification, lorsqu'ils te permettent de concentrer ton intelligence sur des choses utiles, des choses sérieuses. Et au contraire, le manque d'activité et l'oisiveté laissent beaucoup de place et sont des portes ouvertes aux mauvaises pensées et aux mauvaises sollicitations. Donc, remplis ton emploi du temps. Occupe ton emploi du temps avec des choses bonnes pour toi, des choses sérieuses. Il y a plein de choses à faire. Demande au Seigneur. Si tu ne sais pas quoi faire, demande au Seigneur. Tu verras, le Seigneur te montrera. Le neuvième principe, c'est se poser la question. Vous connaissez ce conseil, mais on va en parler. Se poser la question. Si Jésus était à ma place, que ferait-il ? Si Jésus était à ma place, que ferait-il ? Une question très importante. Lorsque tu es tenté, pose-toi tout simplement cette question. Lorsque tu as un choix à faire et que tu doutes, pose-toi simplement cette question. Si Jésus était face à l'impudicité, que ferait-il ? Il rejetterait. Si Jésus était face à la cupidité, il rejetterait. La jalousie, la vengeance, il rejetterait toutes ces choses-là. Et nous aimons Jésus. Et nous voulons imiter Jésus dans sa puissance, dans sa vie de prière, dans la guérison des malades. Nous voulons imiter Jésus dans toutes ces choses-là. Mais nous devons aussi vouloir imiter Jésus dans la sainteté. Jésus a été parfaitement saint. On connaît Jésus pour des exploits, des miracles qu'il a fait. Marcher sur l'eau, il a chassé des démons, il a multiplié les pains et les poissons. On connaît Jésus pour tout cela. Mais connaissons aussi Jésus pour sa vie de sainteté. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais, jamais péché. Donc lorsque tu es confronté à une décision, pose-toi cette question. Très simple. Si Christ était à ma place, que ferait-il ? Ça règle souvent les questions. Est-ce que Christ volerait dans un magasin ? Bien sûr que non. Est-ce que Christ ferait une fausse déclaration aux impôts ? Bien sûr que non. Est-ce que Christ tricherait pour avoir des aides sociales ? Bien sûr que non. Est-ce que Christ mentirait ou trahirait un ami pour de l'argent ? Bien sûr que non. Jésus ne ferait jamais tout cela. Donc, Christ à ta place, qu'aurait-il fait ? Ou que fera-t-il ? C'est mieux de se poser la question avant. Si on se pose la question après, c'est qu'on a un doute sur ce qu'on a choisi de faire. Posons-nous la question avant. Christ, que fera-t-il ? Voilà, question très simple et qui peut devenir un véritable instrument de discernement dans nos vies quotidiennes. Le dixième principe, ne jamais devenir ami de l'argent. Ne jamais devenir ami de l'argent. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. La Bible nous avertit qu'au dernier temps, les hommes seront amis de l'argent. L'argent peut être un bon serviteur, mais il peut être aussi un très mauvais maître, surtout lorsque tu commences à l'aimer. Et lorsque tu aimes l'argent plus que Dieu, alors tu deviens prêt à tout
prêts à tout faire, prêts à tout risquer pour l'argent. Les hommes qui ont de l'argent pour, qui ont l'argent pour mettre, ils sont condamnés à devenir mauvais. L'argent ne rend pas beau. L'argent rend égoïste, il rend cupide, il rend tricheur, il rend voleur. Il va t'amener à la prostitution, il va t'amener au meurtre, il va t'amener à trahir tes amis, ta famille. Même par amour de l'argent, certains abandonnent leurs valeurs, leurs engagements, leur éducation, leurs principes, tout, 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 tout. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus ? Par amour de l'argent. Par amour de l'argent. On se rappelle toujours qu'à un moment donné, Satan est entré dans Judas. C'est vrai. Mais le problème de Judas avec l'argent, il est avant. Il y a des situations qui se sont produites avant où on voit que Judas avait cet attrait pour l'argent. Quand Marie répand le parfum aux pieds de Jésus, Judas n'est pas d'accord. Et Judas râle. Et Judas dit, voilà, ce parfum d'un grand prix, c'est beaucoup d'argent qu'on a gaspillé. Même l'apôtre Jean nous dit que Judas prenait dans la caisse, il prenait dans la bourse. Tout ça, c'était avant que Satan entre en Jésus. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons, je ne sais pas, mais il y avait une faille. Il y avait une faille chez lui. Et Satan a exploité cette faille-là. Et aujourd'hui encore, l'amour de l'argent pousse les hommes à compromettre leur vie, à renoncer à leurs principes, à renoncer aux choses les plus importantes. Il peut même pousser certains enfants de Dieu à ne plus donner parce que leur cœur s'attache à ce qu'ils possèdent, plus qu'à l'amour de Dieu. À grande échelle, on le voit dans les actualités, l'amour de l'argent peut pousser à des choses abominables, à des guerres, à des destructions dans le monde entier, à de l'exploitation, de la violence, toutes ces choses-là. On se bat pour le pétrole, on se bat pour les métaux rares, on se bat pour les pierres précieuses, on se bat pour les richesses, les intérêts économiques, toutes ces choses-là. Il y a des hommes qui sont prêts à détruire des vies, détruire des villes, détruire des pays entiers pour se remplir les poches, juste pour se remplir les poches. Fais attention. Et si l'amour de l'argent rentre dans ton cœur, prie le Seigneur et demande-lui de t'en délivrer. Jésus a dit qu'on ne peut avoir deux maîtres, on ne peut servir Dieu et maman. Maman représentait justement la possession, la convoitise, l'argent. On ne peut avoir deux maîtres. Il faut choisir. Frères et sœurs, choisissez d'aimer Dieu avant d'aimer l'argent. Voilà, frères et sœurs, pour conclure, donc on a partagé ensemble ces 10 principes pour combattre le péché. Je vais les rappeler rapidement. Avoir une intimité avec Dieu fondée sur l'amour. Chasser les démons qui veulent maintenir dans nos vies un cycle de péché, un cycle de chute. Nous identifier à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Naître de nouveau. Vouloir et décider de vivre dans la sainteté. Considérer le péché comme de la boue face à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Garder les mêmes principes alors que les autres les abandonnent. Nous occuper, car l'oisiveté est une porte ouverte vers le péché. Et puis nous demander toujours, si Jésus-Christ était à ma place, qu'aurait-il fait ? Et enfin, nous venons d'en parler, ne jamais être ami de l'argent. Peut-être pire, ne jamais être amoureux de l'argent. Voilà des principes qui ne sont pas seulement des enseignements à écouter, mais ce sont des choses qui peuvent devenir des décisions de vie, des vraies décisions de vie. On a parlé de 10 ce soir, mais il y a encore beaucoup plus de solutions, il y a encore beaucoup plus de principes à partager. Tu peux entendre un message comme ce soir et continuer à vivre dans le péché. Tu peux prendre des notes, tu peux même connaître les versets par cœur, tout ça, mais la connaissance seule ne suffit pas. On disait qu'il faut la connaissance, mais la connaissance seule ne suffit pas. À un moment donné, il faut la décision, il faut le choix, il faut la collaboration avec le Saint-Esprit, il faut passer aux actes. Voilà, ce message est terminé. J'aimerais maintenant, si vous êtes d'accord, qu'on puisse baisser nos fronts tous ensemble, qu'on puisse aussi incliner nos cœurs devant le Seigneur et qu'on puisse tous ensemble le prier. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont entendu cette parole. Je prie que tu sauves celui ou celle qui ne te connaît pas encore. Entre dans son cœur, dans son âme. Seigneur, entre dans son esprit. Change sa vie, transforme sa vie. Que le miracle de la conversion ait lieu. Ô Seigneur, je prie également pour toutes celles et tous ceux qui vivent encore dans le péché. Car il y a aussi des chrétiens qui vivent dans le péché. Ceux qui n'arrivent pas à dominer la tentation. Ceux qui sont prisonniers de chute. Seigneur, je te prie qu'un miracle de ton esprit ait lieu. Ô Seigneur, là où ils se trouvent, que tu puisses les toucher, que ta main les touche, que ton esprit les touche, que ton esprit leur parle. Donne-leur la force, Seigneur. Donne-leur la force de dire non. Donne-leur la force de faire un choix, de dire non au péché. Donne-leur la force de prendre des décisions, des vraies décisions. Donne-leur la force de revenir à toi. Ô Père, que cette parole produise un réveil. Partout où ta parole est entendue, touche les cœurs, change les vies, transforme les hommes, transforme les femmes. Oh, que des hommes abandonnent le péché, que des femmes retrouvent la sainteté, que des familles soient restaurées, que ton Église retrouve la crainte de Dieu. Oh, que ton peuple demeure debout au milieu d'une génération qui s'éloigne de toi, une génération qui t'a abandonné, mais que nous soyons ces hommes et ces femmes qui tiennent encore debout. Merci, Père éternel, d'agir maintenant d'une main ferme et d'un bras étendu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Peut-être une ou deux personnes voudront élever la voix encore. Alléluia.